BFM Business. Objectif, raison d'être. Cyril Ariel.
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous finissons la saison en beauté. Cette semaine, nous allons voir comment le secteur privé s'empare de l'ODD numéro 15, c'est-à-dire restaurer et préserver les écosystèmes terrestres. Nous recevons alors sur ce plateau la maison ENCI avec sa directrice du développement durable. Et nous aurons également un scientifique émérique, un biologiste, Gilles Boeuf, qui sera là pour nous parler de tous ces engagements et surtout de toutes ces implications nécessaires à préserver notre biodiversité, mais aussi nos sols. On commence tout de suite, ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.
Et cette semaine, après avoir mis à l'honneur notre plus grand puits de carbone, nous en mettons d'autres à l'honneur. Cette semaine, nous allons parler notamment de nos forêts, de nos écosystèmes terrestres. Et je suis ravie d'avoir pour cette émission qui clôture cette saison ENCI, la maison ENCI, connue pour son cognac et surtout pour ses engagements en faveur des écosystèmes terrestres. Et je suis ravie de vous recevoir, Nathalie Murer. Vous êtes la directrice développement durable de la maison. Bonjour et bienvenue, Nathalie.
Bonjour et merci Cyrielle de nous accueillir sur le plateau.
Avec grand plaisir. Et nous avons également un scientifique émérite avec nous à distance parce qu'il est toujours en train de donner des conférences aux quatre coins de la France. C'est Gilles Boeuf, vous êtes biologiste et on le rappelle, ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle, mais également un universitaire. Vous avez passé 20 ans à l'IFREMER. On ne vous présente plus. Bonjour et bienvenue Gilles Boeuf.
Bonjour à tous, merci pour votre accueil.
Écoutez, merci infiniment. Alors vous, ENCI, vous voulez devenir la référence en termes de durabilité dans les vins et spiritueux de luxe. Alors expliquez-nous, Nathalie Murer, aujourd'hui, quand on appartient au groupe LVMH, une maison ENCI que vous voulez représenter, c'est quoi votre raison d'être aujourd'hui, à l'heure où effectivement le climat tape nos terres?
Oui. Alors, la raison d'être d'ENCI, elle est assez simple. D'abord, on est une maison de cognac. On a été créé en 1765. On en est à la 8e génération de maîtres assembleurs. Pourquoi on est là? C'est pour créer des cognacs d'exception qui sont issus d'un alliage entre une nature unique et puis le talent des hommes, parce que la nature, c'est les vignes, c'est le raisin. Et le talent des hommes, c'est les talents, les pratiques viticoles, la distillation, le vieillissement et les assemblages. Et notre cognac est servi dans les quatre coins du monde. On est présent dans 160 marchés aujourd'hui, depuis le début de l'histoire. Et dans cette raison d'être, on a deux engagements principaux. Le premier est autour du développement durable, parce qu'on veut associer. Et un autre sur l'humain.
Eh bien, très bien, on va en parler. Vous, Gilles Boeuf, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à toutes ces maisons qui commencent à s'engager ou encore celles qui ne le sont pas en termes de raison d'être? Est-ce que vous voyez de plus en plus, en termes dans le secteur privé, les entreprises qui s'engagent, qui se targuent d'avoir une raison d'être, qui s'engagent dans la société à mission, qui s'engagent dans la certification B Corp? Est-ce que vous, de par toutes vos prises de parole aux quatre coins de la France, que ce soit dans les universités, dans les événements internationaux, vous voyez qu'il y a de plus en plus cette mouvance d'engagement?
Oui, je trouve que ça s'améliore. Et heureusement, parce que ça fait nous quand même plus de 20 ans qu'on crie sur ce climat qui dérive trop vite et ce vivant qui s'en va. Je crois que les entreprises ont bien compris que pour faire du business, il faut garder à l'extérieur, autour de nous, des écosystèmes de bonne qualité. Si le climat, on le laisse dériver et arriver à des choses qui seront plus possibles pour une habitabilité de la Terre. Deuxièmement, si on laisse ce vivant s'effondrer, je parle pas d'extinction. Pour nous, ce qu'on vit aujourd'hui dans le vivant, c'est un effondrement du nombre des individus dans les populations naturelles sauvages. Et là-dedans, bien sûr, j'inclus bien sûr les sols viticoles. Donc avec les maisons qui ont compris cela, on s'entend bien. Et je vais répéter une chose que je dis souvent, la science n'est pas une opinion. Donc il nous faut absolument une base scientifique. Et ces maisons ont compris effectivement qu'avec des scientifiques, alors bien sûr il faut une politique de développement sur laquelle on peut revenir, que des ONG existent et fassent des remarques, c'est très important, mais la réaction d'entreprise est fondamentale pour moi. Et les quatre piliers du développement futur, elles sont là, la science, la politique, les ONG et les citoyens, c'est important. d'ailleurs des gens des grandes entreprises que vous évoquez pouvant être aussi engagés, les citoyens, et enfin des entreprises. Et si tout ça communique en harmonie, on arrivera à faire quelque chose. Je dirais simplement que le vivant travaille en coopération, infiniment plus qu'en compétition. Beaucoup plus de symbiose, de mutualisme, de commensalisme, d'entraide dans le vivant. Et ça, on le voit dès le plancton, il y a presque 4 milliards d'années.
Ça c'est vrai, on vit en harmonie. Et avant de rebondir ensuite sur les engagements en termes de viticulture durable, de sols et paysages vivants chez Annecy, est-ce que vous pouvez tout d'abord, de manière très basique, nous restituer tous les bénéfices justement que nous procurent nos forêts et pourquoi justement ce sont de véritables alliés contre le réchauffement climatique ?
Alors d'abord, il faut voir que quand l'humain donc a commencé à se développer, en gros, l'humain que nous sommes, il a entre 300 et 400 000 ans, il sort d'Afrique, il s'installe, et il va entrer en compétition avec la forêt, parce que pendant longtemps, il est chasseur-cueilleur, ça pose pas de problème, et puis vers 12 000 ans, il s'arrête, les femmes commencent à faire beaucoup de bébés, il reste plus que sapiens, ce que nous sommes nous aujourd'hui, et là, il va défricher cette forêt, il va en faire des espaces d'activité agricole très simples au début, on n'est pas très nombreux. Il faut attendre effectivement le 19e siècle pour voir l'humain commencer à travailler sur des souches, autant animales que végétales d'ailleurs, qui sont plus bénéfiques pour la productivité agricole. Mais il change tout au fur et à mesure. Et on vit une accélération très forte depuis quelque temps. Cette forêt a été fortement dégradée, la forêt française elle recouvrait pratiquement tout le pays. Ces grandes forêts, elles ont été autant de la Bretagne à l'est de la France en passant par les Pyrénées et les Alpes. Elle a été donc défrichée, elle a été drainée et beaucoup trop par endroits. Alors, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un mélange. Alors d'abord, il faut dire que l'activité forestière en France, les trois quarts sont privés.
C'est ça qu'il faut dire, c'est vrai, les trois quarts sont privés. Ouais.
Donc ils ont une très grande responsabilité, ces propriétaires forestiers, dans ce que pourrait devenir la forêt française. Vous avez des zones où on a augmenté considérablement la superficie de la forêt, mais souvent avec des arbres qui sont en monospécifique à haute intensité, comme par exemple dans les Landes. Et puis d'autres endroits, on a gardé encore quelques forêts anciennes. Il faut regarder un petit peu. Moi-même, je préside une réserve naturelle qui est la forêt de la Massane, dans les Pyrénées orientales.
Ouais.
Petite, 340 hectares, mais c'est là qu'on a le plus d'espèces vivantes sur une telle surface pour toute l'Europe. Donc vous voyez, garder de la vieille forêt pas altérée, dont le métier n'est pas de la productivité en bois, à côté de, bien sûr, d'espaces privés pour lesquels, effectivement, on a besoin d'une profitabilité économique. Tout ça peut travailler ensemble, ça va être lié à de la reforestation, un arrêt d'une déforestation massive et surtout, quelles essences mettons un contexte très clair du changement climatique. Avec mes amis de l'ONF, on disait l'autre jour, je sais même pas si on va continuer à replanter des chênes sessiles, ces vieux chênes de France qu'on a toujours vantés pendant très longtemps. Aujourd'hui, en mettre aujourd'hui pour que dans 10 ans, avec ce climat qui change, ils puissent pas se développer, il faut qu'on pense à autre chose. Donc, il faut absolument qu'on change tous collectivement quelles essences on replante, sur quelle surface.
Et pourquoi est-ce que la forêt française... Et parce que c'est un formidable puits de carbone. C'est ça qu'il faut remettre.
Pourquoi la forêt
française
est malade? Parce qu'elle est vieille, elle est mal diversifiée. On a fait des coupes qu'il fallait pas faire. Et puis surtout, elle vit ce changement climatique de façon terrible. Elle est également envahie par des extérieurs. Je prends les petits scolytes de la forêt landaise, un petit coléoptère. On découvre 2 ou 3 espèces nouvelles qui viennent d'ailleurs chaque année, qui n'existaient pas auparavant. Tout ça dans le contexte du climat qui change. Sur mètre dans les Pyrénées, je vais perdre mètre parce qu'il ne pleut pas suffisamment et il fait trop chaud. Donc il faut tout repenser collectivement, bien sûr, avec l'entreprise privée.
Alors, justement, très bon rebond. Merci beaucoup, Gilles, de nous avoir expliqué tout ça. Du coup, on va faire rebondir Annecy. Vous venez de sortir votre rapport de développement durable. Il vient de sortir il y a quelques jours. Le rapport développement durable 2022. Alors, expliquez-nous, Nathalie Meurer, qu'est-ce qui se cache? Quel est le bilan positif que vous faites dans ce rapport? Et surtout, ça veut dire quoi aujourd'hui avoir des sols et des paysages vivants en termes de viticulture durable?
Sur la viticulture durable, tout d'abord, sans vignes et sans raisins, il n'y a pas de cognac. Donc, c'était le premier
constat. Ça, c'est pragmatique.
C'est le premier constat. Et vous avez bien compris que nous, on est dans la transmission et aussi on est dans la durée. Et on se rend bien compte que quand on a des sols vivants, des sols qui accueillent des micro-organismes, des vers de terre, des bactéries, des champignons qui favorisent l'alimentation de la plante. On a une vigne plus résistante, plus résiliente au dérèglement climatique qui est mieux protégée, qui se protège mieux contre le stress hydrique et les maladies, en fait. Donc nous, dans les sols vivants, on a un certain nombre de pratiques qu'on a déployées dans notre vignoble en propre.
Quel type de pratiques,
voilà. Et on a deux pratiques, en fait, qui sont très efficaces. C'est la première chose, c'est les couverts végétaux, parce qu'en fait, avec des couverts végétaux, on réduit l'érosion, parce que le sol est couvert, comme son nom l'indique. Ensuite, ça permet de décompacter le sol, dans le sens où, avec les machines, aujourd'hui, on a des sols qui sont rendus plus imperméables à l'eau, et donc, en décompactant le sol avec les couverts végétaux, on a des très bons résultats. Et puis ensuite, ça permet aussi d'absorber de l'azote atmosphérique pour pouvoir le restituer à la plante. Et ça, c'est le premier, c'est tout ce qui concerne les couverts végétaux, et on le promeut. Et dans le paysage cognacier aujourd'hui, ça a beaucoup changé dans les 10 dernières années. Les interrants.
Ces pratiques, elles sont à Cognac, mais ailleurs aussi ou pas? Ou après, c'est de la régénération des forêts avec vos partenaires, comme en forêt?
Alors en fait, le premier sujet, c'est les couverts végétaux. Effectivement, le deuxième, c'est l'agroforesterie. C'est le fait d'associer des arbres dans la culture.
Différentes
espèces, parce que évidemment, c'est de la diversité que naît la richesse. Et c'est de la raison pour laquelle on promeut aussi toute l'agroforesterie avec des haies à planter. Et effectivement, c'est le bénéfice de ça, c'est que ça réintroduit la biodiversité à la fois au-dessus des sols, mais aussi en dessous, et ça procure des nuages.
Donc en fait, c'est votre programme Destination Forêt, et vous avez fait notamment un partenariat avec la start-up française Reforest Action. Et vous avez l'objectif, je crois, de planter une 50 000 hectares de forêts d'arbres et d'aides d'ici 2030 en France et dans le monde. Donc c'est
voilà.
Ça.
Non, en fait, ce qu'on veut, c'est aller au-delà de notre responsabilité et participer à la création et de régénération d'écosystèmes forestiers. Donc, c'est effectivement le chiffre, 50 000 hectares.
On en est où, là?
D'ici 2030. Donc là, on a 8 projets dans le monde. En fait, on a des projets au Nigeria, en Afrique du Sud.
En Tanzanie, au Kenya.
Voilà, exactement, en Chine. Aujourd'hui, nous en sommes à 4 500 hectares. Et d'ici 3 ans, on aura fait la moitié de notre objectif. Dans le monde, mais à côté de ça, on a des actions dans nos forêts, parce qu'on est propriétaire de forêts.
Combien en France, combien d'hectares?
On a à peu près 600 hectares de forêts, en particulier dans le centre.
On est tout en agroforesterie dans vos 600 hectares en propre?
Alors, dans nos 600 hectares en propre, en fait, on est en gestion durable des forêts. Donc ce sont des forêts qui sont gérées de façon durable par nos équipes. Et puis on a aussi des actions effectivement avec l'ONF où on replante des forêts de chênes pas très loin de chez nous, dans la forêt de la Braconne à Angoulême. Donc un programme autour des forêts, mais aussi de la recherche et innovation, parce que comme disait Gilles, le dérèglement climatique a un impact assez considérable sur la résistance des chênes, dont nous avons aussi besoin pour faire vieillir nos cognacs. Et en fait, la succession de températures extrêmement élevées, ça représente des coups de massue pour les chênes.
Il faut le redire.
Et donc, nous, on veut développer des programmes de recherche et développement là-dessus pour justement pouvoir anticiper les effets au maximum.
Et planter des arbres, en tout cas, ça permet également de rafraîchir un peu l'atmosphère. Justement, Gilles Boeuf, en quoi l'agroforesterie aujourd'hui, c'est une solution justement pour lutter contre ce changement et justement pérenniser la diversité des différentes espèces?
C'est une fabuleuse opportunité, parce que vous savez, dans la nature, il n'y a pas d'écosystème à une ou deux espèces comme l'a fait l'agriculture, on produit que du maïs ou que de la tomate ou que du blé. Et c'est vrai que ce qui est très clair dans le vivant, c'est qu'on voit une relation directe entre nombre d'espèces et productivité. On produit mieux en association, bien sûr, en symbiose entre tout ça, et l'arbre est un merveilleux, je dirais, capaciteur de ces questions-là. Donc, ce qui veut dire, on va pas faire des champs d'arbres, comme on va pas faire effectivement des champs de coquelicots. C'est pas le but, effectivement, du producteur agricole. Simplement, quand ils sont là, ils améliorent la situation, parce qu'ils améliorent, qu'on a dit, qu'a dit très bien mon ami tout à l'heure, la biodiversité de nos sols. Faut bien voir que la température.
Protéger notamment nos vers de terre et escargots et tout ça.
Il faut la mesurer dans le sol, hein. Il n'y a pas que la température de l'air. Il y a à la fois l'hygrométrie et la température du sol. Et dans les vignes, on l'a très bien vu. Si on maintient des bactéries vivantes, elles font des micro-trous. Ces micro-trous qu'elles vont enduire de mucus, exactement comme dans nos poumons. Et la goutte d'eau rare qui tombe, elle reste là, elle va pas ailleurs. Donc à tous les niveaux, ça va être bénéfique. Amener du vivant en beaucoup plus grande quantité, éviter ces problèmes de sol nu, là je suis entièrement d'accord, bien évidemment, et garder l'eau rare qui tombe. Et la vie nous a montré durant l'été 2022 quand même de fabuleuses capacités de résilience. Mais ça ne durera pas indéfiniment si on ne fait pas attention. Donc il faut qu'on aide le système vivant actuel de nos productions agricoles à se préparer et à travailler, à résilier. Parce que vous savez qu'on ne peut pas résilier si on est mort. Donc faisons attention à ces sols. Aujourd'hui, une grande partie des maladies agricoles viennent du fait qu'on a tué les sols par des labourages intempestifs ou bien par des produits issus de la chimie de synthèse. J'en regardais l'autre jour, 360 000 molécules issues de la chimie de synthèse. On arrête, hein, on pense différemment, on joue sur le vivant. Et c'est en symbiose et en coopération qu'on arrivera à continuer à produire de la très bonne qualité et surtout à s'adapter à changement climatique.
Et j'ai une question pour vous deux. Alors voilà, secteur privé ou encore biologiste, mais quand on parle d'agroforesterie, on parle que c'est la plantation effectivement de différentes espèces. Tout le monde vit en symbiose, en harmonie. On est plus fort avec toutes ces espèces. Mais est-ce que ça, cela doit être forcément, si on est en bio, en zéro pesticide, est-ce que ça marche ou pas? C'est quoi votre engagement chez ENSI quand on fait de l'agroforesterie?
Donc nous, on s'est engagé sur un programme qui s'appelle Mille Palis. Mille Palis, ça veut dire haie en charentais, où on vise à transformer les paysages de l'appellation en replantant 1000 km de haies. Donc des haies simples, des haies doubles, des arbres isolés.
On ne met pas d'intrants ?
Dans notre vignoble de la Bataille, on a zéro herbicide depuis un certain temps et on fait beaucoup de tests sur des biocontrôles justement pour éviter les intrants. On utilise des pulvérisateurs à panneaux récupérateurs. On a des intrants. On essaie de les diminuer. Il faut le dire ce qu'il y a. Il y a les climats.
Le bio, tout bio, ça ne passerait pas, même s'il faut le conversion
dans la région. Dans la région de Cognac, c'est très compliqué. Il y en a qui le font, hein. On a des températures élevées. Il y a aussi beaucoup d'humidité.
Donc avec le réchauffement climatique aujourd'hui, ça vous bloquerait? C'est une vraie question. Après, on va faire rebondir.
En fait, aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on a 800 mm d'eau. Donc, c'est assez considérable. Hein. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'on a des pics de température. L'année dernière, on avait 15 jours de plus de 35 degrés. Et ça impacte la vigne. Et cette année, sur 2023, on a eu sur le printemps énormément de pluie et des températures élevées. Donc, ça, c'est très compliqué à gérer sur les vignes. Donc, nous, ce qu'on essaie, c'est renforcer la santé de la plante par la santé des sols, introduire de la biodiversité pour réintroduire les pollinisateurs via l'agroforesterie et puis et introduire de la biodiversité par les jachères mellifères, etc.
Gilles Boeuf, quand on parle d'agroforesterie, effectivement, c'est compliqué aujourd'hui avec ce réchauffement de passer tout en bio, en zéro intrant.
C'est quoi l'agroécologie, l'agroforesterie? C'est le fait de ramener de la vie dans les sols. L'eau, elle est partie. Vous savez, une grande partie des maladies de nos plantes vient du fait que ces sols ont été détruits. Hein. Alors, sur les sols viticoles, ils ont peu de matière organique, parce qu'on a mis beaucoup, beaucoup de produits, bien sûr. Hein. On a la moitié moins de ce qu'on avait, moi je me rappelle, dans la région de Narbonne, quelque temps, des chiffres qu'on avait il y a 20 ans. Donc, ne pas accuser que le changement climatique, si la vigne a du mal, c'est aussi parce qu'on a utilisé ces intrants. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec notre ami. Ce qu'il faut faire, c'est plus on aura du retour du vivant dans les sols grâce à l'agroforesterie, grâce à ses haies revenues, à ses arbres revenus, mieux le sol se portera et moins on aura de problèmes liés à ce changement climatique. On va le voir au cours du temps, assez vite. Vous savez, ce qui est compliqué à expliquer à nos concitoyens, à nos auditeurs, c'est qu'on a laissé beaucoup dériver ce climat aujourd'hui. Et que tout ce qu'on va faire, il faut le faire, bien évidemment. Mais est-ce qu'on va voir des résultats assez vite au niveau de la santé publique? Ça va être compliqué, mais on pourra le faire. On va pas empêcher le climat de changer. On peut plus maintenant, parce que ça va encore durer un certain temps, de par les phénomènes d'inertie. Par contre, plus on prendra ces précautions au niveau de la qualité des sols et au niveau, bien sûr, de la santé publique, et mieux les gens verront des répercussions des efforts qui sont développés. Donc, il faut regarder de la bioaspiration, s'inspirer du vivant. Comment fait le vivant dans ces conditions-là? Avec, bien sûr, de la productivité qui est faite sur de la biodiversité. Deuxièmement, regardez aussi ce qu'on appelle les sens participatifs, que tous nos vignerons participent à la collecte de l'information, nous la restituent, et ensemble avec eux, on trouvera des meilleures méthodes de gestion. Et enfin aussi, regardez la question sur une seule santé. Tout à l'heure, on parlait des problèmes de la vigne, le mildiou, qui nous pose beaucoup de problèmes. C'est clair aujourd'hui qu'il faut qu'on regarde les relations entre la santé de l'écosystème, la santé animale et la santé humaine, publique. Hein. Parce que là, dans l'immigration, il n'y a pas que des humains qui migrent en ce moment. Hein. On a des virus qui vont arriver, des bactéries, on le voit très bien en ce moment. Donc comment est-ce que tout ça, collectivement, avec un effort personnel dans lequel les entreprises ont vraiment un rôle fondamental à jouer, on pourra avancer ensemble avec des résultats.
Alors, une dernière question, ça va dans ce sens, Gilles Boeuf, et je vous la pose à vous d'ailleurs. Cette semaine, c'était le 12 juillet, il y a un texte phare du Pacte vert européen qui a été approuvé. Les députés européens se sont réunis donc à Strasbourg et ont approuvé cette proposition à restaurer 20% des écosystèmes dégradés de l'Union européenne à horizon 2030. Alors, est-ce qu'on va dans le bon sens et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour accélérer?
Vous imaginez bien que je peux que être très heureux. J'ai eu très peur, hein. Je me suis demandé. Je ne comprends pas comment des mouvements politiques peuvent être contre a priori. Hein. Faisons ensemble. Construisons. On ne peut pas continuer. Vous savez, si on est dans ces questions difficiles aujourd'hui au niveau de l'humanité, avec les différences sociales, les problèmes de démographie aussi qu'il faut mettre là-dedans, hein, c'est parce que on a laissé dériver des systèmes. Et ce qui est clair, c'est que si on veut s'adapter à ce qui change, il faut changer. Le vivant, il a 4 milliards d'années, ça fait 4 milliards d'années qu'il s'adapte, parce qu'il a accepté de changer. Donc comment est-ce qu'on change? Et c'est là qu'est le débat que vous évoquez en ce moment, la céréale. Ça veut dire qu'il faut passer par des lois de restitution à la nature. Alors, c'est pas d'arrêter la productivité agricole, parce que en plus, cette loi, elle est autant valable pour le milieu marin que pour le milieu continental, on est bien d'accord. Hein,
ouais.
Des zones marines protégées, mais vraiment protégées. Si on fait des zones marines protégées, eh bien, on ne chalute pas dedans. On décide avec les pêcheurs des zones qu'on va mettre en réserve, bien évidemment.
C'était notre émission de la semaine dernière, ça. Bien évidemment,
c'est pareil pour nos forêts. Hein. On le fera avec les entreprises. Décidons ensemble de ce qu'on veut garder avec nous. Ce qui est clair, c'est que plus on va garder des zones, effectivement, pas trop impactées par nos activités actuelles, duquel va repartir la biodiversité, ce qu'on appelle l'effet réserve. Hein. Le vivant repart de ces zones, on l'a laissé un peu se récupérer. Vous savez, je disais récemment, c'était chez vos collègues de France Inter, foutons la paix aux vivants. Et si les viticulteurs ont compris ça, je pense qu'ils l'ont compris, ça va changer beaucoup de choses.
Si
le vivant sera notre allié.
On leur fout la paix à ces sols, etc. Restez avec nous maintenant, on va passer aux questions des internautes.
BFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
Et je suis ravie d'accueillir ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch pour nos questions cette semaine.
Et on commence avec Léa. En termes de production, est-ce que tout est produit à cognac, sinon où?
Ah bah, le cognac, c'est une appellation d'origine. Donc en fait, tout est produit sur le territoire. C'est 80 000 hectares. De production avec des droits qui sont surveillés et pour nous en fait ça représente 33 000 hectares donc oui, donc tout est produit sur la région.
Même la bouteille?
La bouteille,
le bouchon?
Alors le produit de cognac est produit sur la région. Ensuite tout ce qui concerne ce qu'on appelle les matières sèches, donc la bouteille, le bouchon, les capsules, etc. Ça vient essentiellement d'Europe.
D'accord. Vous
avec des fournisseurs. Oh ben on a des usines en Pologne et en fait on a des gros fournisseurs qui sont en Europe, donc en Italie ou au Portugal.
On poursuit avec une question de Laurent. Ensi protège les arbres et la forêt à travers le monde. Le bouchon de ces flacons est-il issu d'une culture ou d'une arboriculture renouvelable?
Alors nous, on s'approvisionne avec des matières premières qui sont certifiées. Donc on achète nos bois, nos cartons en FSC, donc certifiés FSC ou PEFC. Donc la réponse, c'est oui.
On continue.
Eva, combien de personnes en situation de handicap embauchez-vous chez Annecy?
Alors, le handicap est une très bonne question parce qu'en fait, ça fait partie de nos objectifs et on a des scores tout à fait honorables parce qu'on est autour de 5% de collaborateurs qui sont en situation de handicap et on veut augmenter et ça fait partie de notre politique de diversité, inclusion et d'équité. Et on travaille beaucoup aussi avec des entreprises comme l'Arche sur la région de Cognac à qui on confie des travaux et on a aussi d'autres projets en cours justement pour augmenter le nombre de collaborateurs qui sont en situation de handicap. Aussi, ne pas hésiter à ce que les personnes se déclarent, parce que ça c'est aussi un autre sujet. Et tout ça, ça passe par le respect, par des politiques qui expliquent pourquoi on fait ça et ce que ça peut procurer. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est de la diversité que vient la richesse.
Et puis, une bonne communication. On poursuit. Comment incitez-vous à travers justement votre communication à l'éco-consommation?
Alors, qu'est-ce que vous appelez l'éco-consommation ?
Peut-être consommer modérément.
L'éco-consommation. L'alcool. Alors,
en fait, responsable.
Oui, oui. C'est tout à fait. C'est une question qui fait du sens dans le sens, dans la mesure où nous sommes un alcoolier, donc nous vendons des spiritueux qui ont des degrés d'alcool élevés. Donc, on a deux types d'actions. On a eu des actions en interne avec auprès de nos collaborateurs et ce sont des actions de consommation responsable et on a tout un programme de déploiement et qui passe déjà par de la formation et une forme d'instruction, d'enseignement autour de la consommation responsable. Et puis en fait, ce qu'on cherche aussi à promouvoir et à mettre en œuvre, c'est la dégustation riche de sens. Nos produits, ce sont des produits qui se dégustent en petits comités, dans le plaisir, dans la lenteur de la dégustation. Et donc plus on comprend notre produit, plus on l'apprécie et plus on a cette dégustation riche de sens et ça c'est très important pour nous.
Bon, bah merci infiniment à vous deux et à vous trois. Merci infiniment Rebecca Blanc-Lelouch pour les questions des internautes et surtout m'avoir accompagnée durant plus de deux saisons dans cette émission. Merci infiniment. Gilles Boeuf, merci aussi d'avoir été avec nous. Je ne sais plus où vous êtes, perdu dans la pampa française.
Je suis sur le plateau de Valensole.
Eh bien, on vous remercie. On vous remercie infiniment et puis retournez vite donner une conférence sur, je crois, la protection qui nous est chère, sur la protection des océans.
C'était l'océan, ça sera sur les sols tout à l'heure. Merci pour votre accueil, à bientôt.
Merci infiniment. Bonjour, et merci beaucoup Nathalie Meurer. Je le rappelle, vous appartenez à la maison ENSI, vous êtes à un poste clé, celui du développement durable. Et c'est la fin d'Objectif Raison d'être au bout de plus de 3 ans. Merci infiniment à toutes et tous. Je suis émue, merci à toutes celles et ceux qui m'ont accompagnée, des collaboratrices géniales comme Aurélie Sellerier, Léa Benavine et puis surtout bien évidemment Rebecca Blanc-Lelouch. Merci infiniment en régie, Alban et tout le monde et merci beaucoup de votre confiance, de votre fidélité. On se retrouvera prochainement pour parler de RSE, d'impact ou encore de développement durable. À bientôt et bel été.
BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.